7h, 9h, plus près de toi.
Non, ce sont ces matins où on se réveille et qu'on sent que ce sont des lendemains de jours où on a senti qu'on servait à rien. Comme un député PS ou de droite pour qui personne ne s'est déplacé, comme un chien de traîneau sans traîneau à traîner, comme un printemps sans nature à faire vibrer, comme un coq sans poulailler, comme une plume sans air pour la porter, comme l'air sans joue à caresser, quand on ne sert plus à rien qu'à soi-même. Alors on vit pour soi, on se dit bonjour toi, on achète un miroir, on s'embrasse dedans et puis la buée elle-même nous fait oublier que c'était nous en face. Il y a des matins comme ça où le plaisir de servir à rien, ce qu'on appelle le service inutile, nous fait à nouveau vibrer. Parce qu'on est quand même vivant, alors ça vaut le coup d'en faire profiter quelqu'un qui, lui, nous suit, nous suivra, nous a suivis. Nous. Allez, viens, toi, viens, moi, allons-y. Sous les regards qui se détournent, sous les marches qui se dérobent, sous le ciel qui s'éclaircit sans joie, qui pourrait s'obscurcir sans peine, on y va. Allez, salut, c'est nous. On sert à rien, mais c'est pas si mal, on s'aime bien.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Alors, attention.
Oui.
Alors, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
On va parler avec Thierry Paret. Et après, je dirai bien bonjour. Parce que c'est le journal, il ne faut pas que ce soit trop tard. Sinon, les gens vont croire que c'est une radio un peu comme ça.
Emmanuel Macron en passe. Bonjour à tous. Hein. Emmanuel Macron en passe d'obtenir une large majorité
c'est
à l'Assemblée
qui, celui-là
nationale.
Alors c'est qui?
Alors c'est le nouveau président
le
de la République.
De Mitran, de Hollande.
Non, c'est le président là.
De Hollande, mais de France aussi. Président. On ne comprend rien. Mais... président de quoi?
De la France.
Oui. Alors je vais chercher ma tisane. Vous me direz à tout de suite. Pardon.
Emmanuel Macron donc en passe d'obtenir une large majorité, très large même, à l'Assemblée nationale à l'issue du premier tour des législatives hier, marqué par une abstention record. Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter.
Lequel?
Le mouvement La République. C'est vrai qu'on est combien là ici? On est 6, 7
moi,
dans le studio,
hein,
donc il y en a
7.
Un sur deux hein, normalement. Donc voilà, on va faire le tri après quand même, c'est important. Mouvement La République En Marche, allié au Modem, pourrait remporter plus de 410 sièges dimanche prochain, même plus de 420, c'est possible, avec 32% lors de ce premier tour. Le bloc LR-UDI arrive deuxième, 21-22%, suivi du Front National qui essuie un revers, avec quand même 13% des voix.
National. Mais qu'est-ce qu'il a de plus national que les autres?
Ça c'est vrai. Le FN qui n'espère pas plus d'une dizaine d'élus à l'issue du second tour dimanche prochain. Crédité de 11% des voix, le mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui-même qualifié pour le deuxième tour à Marseille, peut tabler avec l'éventuel appui du PC, mais rien n'est moins sûr, sur 8 à 18 députés.
Mon parti La France Soumise a eu quelques voix aussi, on y reviendra.
Le Parti Socialiste boit la tasse avec un peu plus de 7%, 9 hein, si on y ajoute les radicaux et les divers gauches, de quoi lui assurer entre 20 et 30 élus à peine. Je dis à peine parce qu'il y en avait quand même près de 300 en 2012. Si les socialistes macro-compatibles comme Manuel Valls à Évry, Marisol Touraine en Indre-et-Loire, Stéphane Le Foll dans la Sarthe ont pu tirer leur épingle du jeu, du moins limiter la casse. Benoît Hamon à Trappes et surtout Jean-Christophe Cambadélis à Paris ont été éliminés dès le premier tour. Le premier secrétaire du PS a pris acte d'un recul sans précédent pour son parti. Il n'est ni sain ni souhaitable, a-t-il ajouté, qu'Emmanuel Macron obtienne une telle majorité. Toujours à Paris, Cécile Duflot a elle aussi mordu la poussière. Elle est éliminée dès le premier tour dans le 20e arrondissement malgré le soutien du PS, alors que dans le 18e arrondissement, Myriam El Khomri, pourtant soutenue par La République En Marche, elle a été par contre distancée de 10 points par un proche d'Alain Juppé. Nathalie Kosciusko-Morizet est également distancée dans l'ancienne circonscription de François Fillon par le candidat d'En Marche. Les ministres du gouvernement Macron, eux, sont tous en ballotage favorable à l'image de Richard Ferrand dans le Finistère. Un sursaut est indispensable pour ce second tour des législatives. Déclaration de François Baroin, chef de file LR pour les législatives. LR qui étudiera au cas par cas l'attitude à suivre dans les circonscriptions où le FN est qualifié au second tour. Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour hier soir avec avec 44% à Hénin-Beaumont, son fief du Pas-de-Calais. Dans le Gard, Gilbert Collard, l'un des deux élus lepénistes sortants, est au coude à coude avec la Torera Marie Sarra, candidate de La République En Marche. Un mot enfin sur les duels PCF-France Insoumise dans l'ex-banlieue rouge, à l'exception de Gennevilliers. Les amis de Jean-Luc Mélenchon ont pris l'avantage hein, sur leurs alliés des présidentielles, enfin ex-alliés, aussi bien à Ivry qu'à Montreuil ou encore à Aubervilliers. Affaibli par son revers, et là on passe à toute autre chose, hein,
tout
le reste de l'actualité.
Tout autre chose.
Exactement. Le reste de l'actualité, mais très rapidement.
Avec Thierry Paré.
Affaibli par son revers aux élections législatives anticipées, Theresa May a opté pour, on est en Angleterre donc, a opté pour un remaniement de basse intensité. La première ministre britannique a dévoilé l'intégralité de son gouvernement, y apportant finalement peu de changements alors que sa position est plutôt fragilisée. Le gouverneur de Porto Rico lui affirme...
Tout autre chose.
Oui, tout à fait, affirme vouloir défendre à Washington la volonté des électeurs qui ont choisi de voir leur île caribéenne en faillite devenir le 51e État américain. C'était un référendum hein, qui a eu lieu hier. Référendum consultatif marqué par une énorme abstention, plus de 23%, enfin près de 23%, et surtout boycotté par l'opposition. Et puis Rafael Nadal a gagné Roland-Garros, il a battu Stan Wawrinka, le Suisse, en 3-7, il n'a pas fait dans le détail, hein. 6-2, 6-3, ah. 6-1.
C'est mais j'aurais dit rapide. Affaibli par son revers.
Oui, affaibli, c'est, oui.
Moi
oui,
j'attendais ça, Wawrinka.
Aussi, Ahmed, oui, ouais. J'étais dans les affaiblis.
Mais c'était quand
tout autre chose. Tout autre chose.
C'est tout autre chose.
C'est-à-dire l'élégance de Thierry Paré, c'est à partir du moment où c'est tout autre chose. De le stipuler.
Est-ce qu'on parle de la coiffure de Tito qui est vraiment...
Alors Tito est arrivé ce matin, c'est tout autre chose. Et là, nous ne passons pas encore à la télévision, même si beaucoup de radios sont filmées. Mais Tito, c'est tout autre chose aussi.
Oui, c'est un guitariste
LR. Je crois que c'est aussi important pour les gens, finalement, ce matin. On a les résultats des élections, c'est bien. Tout autre chose, on a le foot. On a Porto Rico et l'Angleterre. Et complètement autre chose, on a les coiffures des uns et des autres. Et ça, et de quoi on va parler aujourd'hui devant les machines à café dans les bureaux, de un peu de politique, mais de toute autre chose très vite.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Alors.
Non, j'aime pas.
Ah bon ?
Je préfère vous entendre comme ça, de vive voix.
Mais là, vous auriez écouté le disque, qui était très joli.
Je l'écoute aussi.
Sur Nova. C'est
je suis en clientèle avec vous, en direct.
Donna Honnêteté.
Voilà. Ça, c'est pas vous qui chantez ça.
Non, mais j'ai votre œil, moi, votre œil.
Oui, mais parce que mon œil est bienveillant. Marie, comment allez-vous ?
Elle va bien.
Ah, pardon, c'est les connoisseurs qui débattent. Oui, excusez-moi les uns et les autres. Donc, nous étions toute la semaine dernière et nous serons encore cette semaine dans la Drôme, au-dessus de Nyons. Parce que je tourne là-bas un film, ne m'en veuillez pas. Hein. J'essaie de mener de front plusieurs vies, afin de, au moment de mourir, de ne pas avoir de regrets. Mais j'essaie de ne pas en faire pâtir l'auditeur de Nova en lui faisant profiter de cette belle région de Nyons.
Et la
région
de l'olive de bouche.
De l'olive de bouche, contrairement à l'huile d'olive. C'est une olive qui se mange, de même qu'il y a du vin de table et du vin pour faire du raisin de table et du raisin pour faire du vin. Voilà, oui. Ça c'est dit.
Oui. Alors, très précis.
Bon, tout est clair.
C'est un film de Pierre Godot, formidable, vous en reparlerez. Avec Dorian Poulvante qui débarque aujourd'hui.
Qui sort quand ?
Et comment ?
Qui sort quand à peu
Il
près
sort dans un an, je m'en fous, on n'est pas en promo. Enfin, si vous voulez, si vous voulez en préacheter quand même. Voilà. Avec Suzanne Clémence, l'actrice québécoise formidable. Oui. Mais pas que québécoise. Je ne sais pas pourquoi on donne l'origine des actrices. Pas trop tard, c'est fait. Alors, Marie.
Oui.
la question était tellement longue entre le premier mari et le dernier. Et moi, il y a une heure qui est passée.
Oui, vous avez moatisé cette présentation.
Ah oui, c'est ça le réalisateur de Mitterrand, Serge Moati.
Oui, il présentait pendant des heures et à la fin, le type avait 30 secondes pour parler et voilà, c'était fini.
Il y avait beaucoup comme ça de présentateurs qui étaient dans les questions. Une fois que la question était posée, la réponse n'avait plus grand intérêt. Il fallait passer à l'autre question. Dites-moi, comment faites-vous au moment où vous êtes arrivé, sachant d'où vous venez et où vous allez, comment faites-vous en comprenant exactement l'époque, tout en sachant les tenants et les aboutissants, pour arriver, je dirais, de vous-même, sans vous influencer, sans vous inspirer de quiconque, comment arrivez-vous, comme ça, de but en blanc, à tirer de votre cerveau génial, et que j'admire infiniment ainsi que les auditeurs, comment arrivez-vous à tirer, je dirais, ce qu'on pourrait appeler, non pas un concept, mais éventuellement une idée. Bon,
je ne sais pas.
Suivante, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Alors, voilà.
Marie, oui. Alors, du coup, j'y vais. Non, j'ai lu le supplément Époque du Monde, qui est toujours riche d'enseignements. Et celui-là, il est sur le fait que les ados détestent téléphoner. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me dis que ça change vite, parce que je me rappelle des engueulades avec mon père à 13 ans, 14 ans, parce que j'avais des factures de téléphone extraordinaires. J'avais la chance d'avoir une ligne privée dans ma chambre et j'y passais des heures. J'avais même une boîte dans laquelle je mettais mon téléphone. Mais je pouvais, par exemple, passer du temps à ne rien dire au téléphone, à juste le poser, puis on reprenait la conversation trois quarts d'heure plus tard. et puis c'était OK.
En somme, ça, c'est la vie amoureuse.
Eh bien, les adolescents, et amical, hein, parce qu'on sait que les amis à l'adolescence, c'est très important, les adolescents détestent répondre au téléphone. Il n'y a pas le chiffre dont vous me parliez à l'instant, Edouard, dans cet article qui dit que 25% des ados n'utilisent jamais leur téléphone, mais
leur
en
smartphone
revanche,
comme téléphone, oui, c'est ça, l'usage du smartphone n'est voilà. pas du tout le téléphone.
Et donc ils détestent ça, peur du vide, peur du mot qui ne vient pas, du début de la conversation, comment est-ce qu'on entame la conversation, gros malaise, donc dès qu'on appelle un ado.
Donc alors c'est ça, c'est qu'on disait que maintenant pour écrire c'est très facile, mais bizarrement c'est l'oral qui a reculé dans
la
communication.
La parole est gênante.
La parole dite Atmen.
Oui, moi dans la creuse, une candidate qui n'a pas eu de voix, même pas la sienne.
Ah bon ?
Oui, mais Michel Mounier dans la Creuse, parce qu'elle n'a pas déposé les bulletins dans la bonne police, et elle comptait sur des gens de son équipe pour y aller, et personne n'est allé déposer les bulletins.
La bonne police d'écriture,
c'est la police. Oui, la bonne police d'écriture, bon, elle avait tout préparé.
Elle avait mis des gothiques, peut-être.
Voilà, des gothiques.
Mais il y a des polices d'écriture imposées ?
Vous ne pouvez pas mettre en...
Il y a deux, trois polices, pas toutes. Non, mais c'est-à-dire qu'elle avait délégué, parce qu'elle était soignante, la pauvre.
Mais ça ne peut pas être doré, ça ne peut pas être minuscule.
Pourquoi pas ?
Ça peut être sur un papier calligramme très très fin, avec une police gothique.
Non.
Pourquoi ?
Comme les autres, parce qu'il y a des règles pour pas faire du marketing sur votre nom. Il ne faut pas qu'on vous passe devant...
Un papier rose un peu parfumé. Non.
Avec des lettres en relief.
Un petit papier rose, quadrillé, un peu parfumé.
Non. Mais alors, Michel Meunier ou Mounier, il faut voter pour elle.
Mais il faut voter pour le second nom.
En revanche, j'ai vu que ce qu'on pouvait faire, si vous n'avez pas de bulletin au nom de votre candidat dans votre bureau de vote, vous pouvez apporter un papier de la même taille et écrire normalement en caractère d'imprimerie le nom et ça passe. Voilà. Ne rajoutez pas... Vas-y, on est avec toi, comme disait Dominique Régnier.
On peut donc prendre le papier, on écrit avec le même truc et on le met dedans.
S'il n'y a pas de bulletin, ce qui est arrivé dans certaines circonscriptions.
Et là, ce n'est pas du tout arrivé. Donc, elle attendait donc au dépouillement au moins une, et rien. Mais alors, rien,
rien.
Là, que tu passes sans rien.
Mais s'il
n'y
a pas de bulletin,
rien.
elle ne peut pas.
Voilà, c'était juste une info qui
me plaisait. Merci, beaucoup d'espérance là-dedans. Tito et sa nouvelle coiffure.
Si vous venez avec moi vous promener dans les bois, eh bien vous pourrez trouver au détour d'un petit buisson un tapis de girolles. C'est la saison, elles arrivent les premières. Il y en a en juin et après il y en a aussi en septembre.
Au marché de Bourges, elles n'étaient pas chères du tout, les girolles.
Il y en a un peu partout. J'ai eu la chance d'en trouver jeudi dernier. Et après, alors on les trouve une par une ou on les trouve par tapis. Mais par tapis, c'est mieux parce que comme ça, on en ramasse d'un seul coup et on met tout dans le panier. On peut rentrer parce qu'il fait un peu chaud dans les bois aussi.
Comment distingue-t-on la girole d'un autre champignon, comme par exemple l'amanite phalloïde qui tue.
C'est une petite amanite, la girole. On l'appelle la petite amanite.
Alors,
la pauvre, on peut pas se tromper, la girolle elle est jaune, on la voit de loin.
Armel nous envoie des sons un petit peu français à l'ancienne, sur un petit air d'accordéon. Dès qu'il entend le mot girolle, il sent son accordéon.
Tito a pris en marche, en dérangement apparemment.
Oui, c'est ça. La manite, faut les ramasser pour les belles-mères.
Ah, il faut tuer, vous êtes encore dans cette France.
Non, pas du tout, c'était pour avoir certaines idées.
Hein, poisons.
On la connaît, cette France-là. Elle commence par tuer sa belle-mère et ensuite elle finit par tuer tout ce qui est différent.
Hein, oui, faut se méfier.
Bravo. Terre d'accueil. Marie, autre chose.
Oui. Autre chose, vous voulez ? C'est à Rennes, un reportage toujours dans l'époque du Monde, dans un Human Lab en fait. C'est un homme dont on n'a pas mal parlé, qui l'a lancé, qui avait fait lui-même sa prothèse d'avant-bras. Il s'appelle Nicolas Huchet, on en avait parlé pas mal à l'époque, parce qu'il a créé dans un Fab Lab lui-même une prothèse. Et donc il a ce Human Lab maintenant à Rennes qui permet à beaucoup d'handicapés de créer eux-mêmes des outils pour améliorer leur quotidien, par exemple... Vous avez une aveugle, alors ça peut être des trucs assez simples qui s'est créé. Un petit cache pour son chéquier, pour savoir où est-ce qu'elle doit écrire les nombres, les chiffres. Comme ça, elle a besoin de personne à la caisse pour payer. Ça peut être des choses très simples auxquelles les valides ne pensent jamais. Et du coup, ils ont tous les outils sur place. Ils ont aussi des gens pour les aider à construire eux-mêmes leurs petits augmentateurs de réalité. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais
si, ça veut dire quelque chose. Donc en fait, voilà. Il aide les gens. Il y a 1000 petites choses de la vie quotidienne pour les gens qui ont des handicaps physiques qui changent tout et qui n'existent pas dans le grand commerce et qu'il aide à fabriquer.
Et puis ils disent eux-mêmes, je connais bien mieux mes besoins que les industriels. Une femme par exemple qui dit qu'elle en a marre dans son fauteuil de roulant de devoir tourner son fauteuil en entier pour tourner la tête, simplement pour regarder sur le côté. Donc elle s'est créé une petite prothèse pour la tête, pour pouvoir tourner la tête sans avoir à bouger son fauteuil en entier.
Très bien.
Moi, juste rajouter quelque chose. Pour le tennis, hier, je voulais saluer Juan Carlos, le roi, qui était là pour voir la décima.
Le père.
le père, le vieux, là,
oui.
pour la décima de Nadal. Et je sens qu'il a vraiment fait du safari, parce qu'en plein cagnard, regardez son blazer, il a fini rougeois comme une tomate.
Mon vieux, si vous voulez pas garder, ne faites pas roi d'Espagne si vous voulez pas garder votre veste.
Non, mais c'est vrai.
Non, il y a une tenue.
Non, mais c'est vrai, il avait un blazer chaud.
C'est pour ça qu'on ne vous le propose pas.
Non, mais
on ne vous l'a pas proposé d'être roi d'Espagne.
Ah non, on
n'a pas. Parce que vous auriez enlevé votre blazer.
Oui, puis je voulais rester
vous
dans la région.
Vous auriez été en pantacourt. Hein, et vous seriez pas allé à Roland-Garros, vous seriez à la piscine avec des copines.
Mais c'est,
et ben c'est pour ça qu'on ne vous le propose pas. Voilà. Allez.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Alors, Rost, qu'est-ce qui se passe ce mardi 13 juin au Théâtre de l'Œuvre ?
Bonjour.
Ça, c'est... J'avais enlevé le bonjour afin de dynamiser ma question. Mais vous avez bien fait de me rappeler aux règles élémentaires de courtoisie qui n'enlèvent rien à la dynamique. Vous pouvez m'excuser. Bonjour.
Bonjour. Écoutez, j'ai monté une ONG qui s'appelle Africa Aid Éducation, dont l'objectif est d'aider à la scolarisation des jeunes filles dans les villages en Afrique. Parce qu'il y a un gros souci... sur la question de la scolarisation des filles en Afrique. On a seulement 25% des filles qui sont scolarisées après l'école primaire.
Alors, excuse-moi, on est à quelle Afrique ? On est dans quel pays, là ?
Alors, on va démarrer par le Togo et le Bénin.
Oui.
Mais l'objectif à terme, c'est de couvrir toute l'Afrique subsaharienne. Donc, on commence déjà à nouer des partenariats avec d'autres petites structures qui sont sur le terrain aussi.
Alors là, c'est assez proche, là, c'est cette petite côte, le Mekotonou. Là, c'est... Vous partez de ce point-là, vous partez sur quelques écoles précises vous...
Alors, on va pas... Dans l'immédiat, l'objectif n'est pas de construire des écoles, c'est vraiment de favoriser l'environnement. Donc, on est en train de mettre en place un dispositif pour construire des internats pour les jeunes filles, parce que certaines sont obligées de faire 10 km tous les jours pour aller à l'école. Donc, c'est pas que le problème, même s'il y a un problème financier, il y a un problème culturel. On estime que les garçons sont plus rentables à envoyer à l'école que les filles. Donc, il y a tout un travail aussi d'information, d'éducation qu'on va essayer de faire sur le terrain pour faire comprendre aux hommes que les femmes ne les menacent pas et que depuis la Renaissance, toutes les sociétés qui ont investi sur les femmes sont celles qui ont avancé les plus vite.
Donc, c'est quelque chose qu'il y avait dans les campagnes aussi ici en France, que les filles
absolument.
De toute façon devaient rester à la maison, on en avait besoin pour la nourriture, pour les enfants, mais quelque chose qui revient aussi, il y a des mouvements pour un retour à ça dans plusieurs religions qui ont droit de citer en France, dans beaucoup de religions, tout à coup il y a une sorte de retour un peu au passé.
Absolument, donc oui, je pense que le plus gros du travail est là, sur les mentalités, parce que c'est quelque chose de profond, et on préfère que les filles aillent... soit vendre des choses sur le marché ou alors qu'elles aillent au champ cultiver la terre avec leur maman. Et donc, on essaye de mettre en place un vrai dispositif pour travailler là-dessus. Aussi faire prendre conscience à l'ensemble des autres sociétés qui sont beaucoup plus avancées aussi que ce qui se passe en France. Moi, j'étais choqué, en fait. J'ai voulu mettre en place cette structure parce que je suis engagé en France depuis très longtemps. Je suis rappeur à la base. Mais j'ai une association qui s'appelle Banlieues Actives où on a énormément travaillé sur la question des quartiers populaires et les jeunes. Donc, je me suis dit à un moment, comment nous, qui, entre guillemets, en plus sommes d'origine africaine, on peut rester insensible et inactif par rapport à ce qui se passe en Méditerranée depuis des années. C'est un cimetière à ciel ouvert, un drame humain dont on ne parle pas assez. Et le 19 avril 2015, moi, j'ai été choqué par ce qui s'était passé avec ce bateau de 1200 migrants qui avait coulé. Et puis, rebelote, deux jours après, c'était encore à nouveau la même chose. Et ça a été un été extrêmement meurtrier. Donc, plutôt que de travailler sur l'urgence, parce qu'on s'est réunis avec certains artistes pour voir ce qu'on pouvait faire, et certains ont dit qu'il fallait qu'on aille en Afrique pour parler aux jeunes, pour leur expliquer que c'est dangereux et qu'il ne faut pas prendre ce risque-là. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui est dans la merde, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. L'instinct de survie sera toujours plus fort, donc il ira chercher mieux ailleurs. Et donc, on s'est dit, travaillons plutôt à moyen, long terme, et ça passe par la question de l'éducation des femmes, parce que toutes les études le montrent d'ailleurs. Quand une femme est éduquée, l'ensemble de la famille est éduquée, parce que c'est elle qui transmet dans cette société matriarcale qu'est l'Afrique, et c'est elle qui transmet, et en général, les gens se construisent, et se construisent chez eux de préférence.
Alors, aider les familles à mieux vivre financièrement et par l'éducation pour ne pas pour ne pas être tenté par la tentation de l'Occident et prendre ces bateaux meurtriers. Comment vous expliquez qu'encore aujourd'hui, il y ait tant de gens, même à Dakar, à Abidjan, qui ont l'air d'ici d'être des villes en plein développement, qui ont envie de partir, qui prennent des bateaux au risque de leur vie?
Vous savez, l'Afrique, c'est un continent un peu malheureusement qui est victime de ses propres richesses. C'est un continent qui est convoité. On dit celui qui possède l'Afrique possède le monde, parce qu'il y a tout pour être bien en Afrique. Malheureusement, ça ne profite pas aux Africains eux-mêmes. Et donc, les gens. Et puis en plus, vous avez toute la colonisation d'esprit qui est faite par les images qu'on transmet. Et les gens qui vivent ici aussi, quand ils vont sur place, leur manière de vivre, leur manière de se comporter là-bas, donne l'impression aux gens qu'ici, ils vivent super bien. Alors que des fois, ils sont même dans des cages à poules et n'ont même pas de quoi manger à la fin du mois. Mais quand ils vont là-bas, ils se comportent comme tels. Donc il y a toutes ces images que ces jeunes Africains, entre guillemets, ont et se disent « Ah, moi aussi, j'ai envie de tenter l'aventure parce que c'est déjà un peu compliqué pour eux au quotidien là-bas. » Et les politiques n'aident pas, d'ailleurs, sur ce plan-là. Donc, c'est aussi...
Il y a encore cette illusion qui est transmise et par les touristes et par les expatriés qui font croire quand ils reviennent aussi au village.
Surtout les expats, parce que les gens ils prennent exemple sur leurs proches et puis les images qu'on leur envoie, parce que la France pour eux c'est la Tour Eiffel. Moi-même quand j'étais gamin d'ailleurs au Togo, pour moi la France c'était la Tour Eiffel, Mireille d'Arc. Les Champs-Élysées.
On voit bien, tout le monde à la télévision, il voit bien par le satellite, les chaînes françaises, les chaînes d'information, il voit tous les problèmes ici. Ça me frappe toujours que ce pouvoir d'attraction soit resté si fort.
Vous savez, quand vous n'avez pas grand-chose, l'espoir est beaucoup plus fort que tout, que toutes les images qu'on peut vous envoyer, ce qu'on peut vous dire. Parce qu'il y a des gens qui le font aussi, malgré tout, qui leur disent... Attention, là-bas, c'est dangereux. Et puis, il le voit, d'ailleurs, aujourd'hui, avec les infos, ce qui se passe en Méditerranée depuis longtemps. Mais ça n'empêche pas. Au contraire, ça continue, ces vagues.
Ils ne veulent pas le croire. C'est très difficile d'admettre que, en fait... Moi, j'avais, par rapport au Maghreb, quand on est là-bas, un mensonge. Enfin, le mensonge de la réussite, il ne fallait pas dire que ce n'était pas bien. Quoi. Il fallait on avait réussi, quoi. Sinon, c'était...
C'est ça.
Et vous avez une grosse réussite personnelle.
Mais merci.
Alors, Rost, ce spectacle pour soutenir l'éducation des jeunes filles dans les pays pour le moment, Bénin, Togo, et puis ça va s'étendre. C'est ce mardi 13 au Théâtre de l'Œuvre. Beaucoup d'artistes viennent. Ça s'appelle, votre association s'appelle Afrique Aide Éducation. Vous allez aller dans les villages, aller parler. C'est de l'information pour le moment?
Non, on est déjà dans le concret, nous, parce que moi, en général, quand je mûris les projets, je fais plein de recherches, et puis une fois que j'ai enclenché la machine, on fonce. On a déjà acheté notre premier terrain au Togo pour commencer à préparer la construction du premier internat. Donc là, le spectacle de solidarité Africa Aid Éducation avec tous les comédiens. On a deux parrains qui sont des gens extraordinaires. On a François-Xavier Demaison, qui est un de nos parrains, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est très impliqué d'ailleurs. On a Stéphane Bern aussi, qui nous appuie.
C'est des personnes qui ont beaucoup à se faire pardonner. Moi, je les connais. C'est des gens qui ne se sont pas toujours bien comportés ici. Ah. J'ai l'impression, j'espère qu'ils vont mieux se comporter avec l'Afrique francophone. Parce que je peux vous dire, ils ont des gros, gros dos. Alors, c'est mardi. C'est au Théâtre de l'Œuvre à 20h. Ouais. Afrique, c'est tiré ça, je suis nul, moi.
C'est Africa Aide.
Oui.
Africa-aide-education.com, ça c'est le site internet.
Voilà, allez voir le site internet et allez mardi soir au Théâtre de l'Œuvre. Il y a, en dehors de la cause elle-même, il y a énormément d'artistes qui on peut citer, à part ces deux types, là, ça m'a vraiment dit, deux maisons et Berde. Ah ça, j'ai vu les pires heures de mon pays.
non, mais en plus, vraiment, François-Xavier, moi, je le salue parce qu'il nous aide vraiment sur ce projet. Ça a été le premier, d'ailleurs, qui nous a filé un chèque pour nous aider sur l'achat du terrain aussi. Et donc, voilà. Mais sur le spectacle, demain, vous avez Maxime, il y a Didier Gustin, il y a Walidia.
Il y a mon camarade Mélanie, Wade.
Voilà. Il y a Mélanie Rodriguez.
Mais cette histoire de chèque, là, c'est parce que...
Qu'est-ce qu'il y a?
Cette histoire de chèque là, c'est un message, c'est pour dire qu'ici il y en a d'autres qui pourraient bien donner des chèques aussi. Ça serait bien qu'ils le fassent, quoi. C'est ça.
Ah merci de le préciser. Bon, c'est peut-être un message pour vous, Edouard.
Merci, merci Rost.
Merci de m'avoir reçu. Passé. Et c'est demain à partir de 20h au Théâtre de l'Œuvre Africa Aide Éducation. Merci
Salut.
Beaucoup.
Et le journal de Thierry maintenant qui va prendre très cher après.
On va parler des élections législatives, bien sûr, un tout autre chose donc évidemment, avec probablement plus de 410 députés dimanche prochain. Emmanuel Macron pourrait disposer de l'une des majorités les plus fortes de la Ve République, mais avec aussi un taux d'abstention record pour ce premier tour de législative, puisque plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter hier. C'est dans ce contexte que le mouvement La République En Marche, allié au Modem, a recueilli 32%. Le bloc LR-UDI arrive deuxième avec 21-22%, suivi du FN qui avec 13% peut espérer une dizaine d'élus dimanche prochain, dont Marine Le Pen puisqu'elle est arrivée nettement en tête dans son fief du Pas-de-Calais. Avec 11% des voix, le mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui-même qualifié pour le deuxième tour à Marseille, peut espérer au moins 8 députés, au mieux 18, tout dépendra évidemment du second tour dimanche prochain. Du côté du PS, on peut parler de plancher historique, un peu plus de 7%. Alors 9, si on y ajoute les radicaux et les divers gauches, de quoi lui assurer entre 20 et 30 élus à peine.
Plancher historique, c'est bien. J'ai marché sur le plancher historique.
30 élus à peine, hein, sur alors qu'il y en avait près de 300 en 2012. Certains socialistes macro-compatibles comme Manuel Valls à Évry, Marisol Touraine en Indre-et-Loire, Stéphane Le Foll dans la Sarthe ont sauvé les meubles hier soir. Ils arrivent en tête dans leur circonscription. Terminus en revanche pour Benoît Hamon, éliminé à Trappes, et surtout Jean-Christophe Cambadélis, éliminé dès le premier tour dans le 19e arrondissement de Paris.
C'est bien les métaphores politiques après le plancher historique là. Terminus, on dirait des chansons. Terminus, François Hamon, tout le monde descend, même les camions.
Okay. Toujours à Paris, Cécile Duflot, elle aussi a descendu du camion. Elle a été éliminée dès le premier tour dans le 20e arrondissement, malgré le soutien du PS, alors que dans le 18e, Myriam El Khomri, pourtenue par La République En Marche, a été distancée de 10 points par un proche d'Alain Juppé. Les ministres du gouvernement Macron sont tous en ballotage favorable. Jean-Luc Mélenchon, on y revient un instant, qui a également gagné son duel face au PC dans plusieurs anciens bastions communistes en petite couronne, comme Ivry, Montreuil, Aubervilliers. Seule exception, Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Et puis à Nanterre, la division PCF France Insoumise donnera lieu à un deuxième tour entre La République En Marche et LR. Quand la digue de la droite cède face à la stratégie Macron, avec environ 22% des voix,
bon, la
coalition.
On n'est pas mal.
La coalition LR-UDI peut encore sauver les meubles avec une petite centaine de sièges, soit environ deux fois moins que dans l'Assemblée nationale sortante. Résultat décevant pour notre famille politique, a concédé le secrétaire général de LR, Bernard Accoyer. Symbole du désarroi qui règne à droite, la deuxième circonscription de Paris, réputée imprenable pour LR, imperdable, pardon, a placé le candidat de La République En Marche largement en tête devant une multitude d'adversaires se réclamant du camp conservateur et notamment Nathalie Kosciusko-Morizet en tête. Et puis on termine quand même, parce que c'est un rappel de titre non plus, hein, c'est pas... Voilà, Raphaël Nadal a battu Stan Wawrinka hier à Roland-Garros, 6-2, 6-3, 6-1.
Dit Roland-Garros quand même.
Oh, j'ai dit Roland-Garros, non?
Oui, non, il a gagné 10. Il en a gagné 10.
Et en le disant, vous vous associez à lui.
À lui, voilà, je m'associe à lui, je récupère sa gloire.
Il y a eu de très 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 belles métaphores politiques ce matin là sur la digue et les terminus, et les planchers. J'ai marché sur le plancher de verre que je croyais ne jamais franchir, moi du PS ou des Républicains. Je croyais que c'était bien terminus, tout le monde descend, la France à feu et à sang. La digue, endigue la mer, la montée des amertumes, le ciel crevé d'espoir.
Ça m'a crevé. Excusez-moi.
Ah oui. Vous êtes descendu en marche.
Très bien, la météo de Tito.
C'est la Saint-Guy. Eh oui, c'est la Saint-Guy. On verra du soleil partout, qui se cachera quelquefois derrière quelques nuages. Alors les températures seront à Avignon entre 20 et 37, à Bordeaux entre 18 et 28, à Clermont-Ferrand entre 14 et 26, à Laval entre 10 et 22, à Melun entre 9 et 23, à Metz entre 9 et 23, à Nantes entre 12 et 24, à Poitiers entre 13 et 26, à Paris entre 11 et 22. Bizarre, Saint-Étienne entre 14 et 28 et à Miquetville entre 19 et 23.
Bizarre. Lay. Ah, Jack Souvent.
Tout autre chose.
Jack Souvent, tout autre chose. Jack, je vous avais quitté au marché de Nyon ce jeudi.
Oui.
Vous étiez fait des olives. Je me rappelle, il y a une dame, vous m'avez dit, elle peint des pierres, elle ne va pas bien.
Oui,
Covid, non, mais elle était en reconversion, on va dire.
Oui, mais
il y avait aussi Monsieur Peloux qui avec ses chants de la vente.
Formidable, formidable, le type qui voulait, qui conseillait pour le film une scène avec quatre jeunes filles qui seraient en train de cueillir des lavandes. Et je dis, mais si elles ne cueillent pas de lavandes, oh, c'est pas grave. Du moment qu'il y a quatre jeunes filles, ça c'était bien.
Mais il avait le plan en tête et tout.
Il avait l'image.
Derrière, il dit, ça va être bon.
Il avait le plan en tête et les mains étaient prêtes aussi. Et dites-moi, la dame, alors vous pensez que c'est un signe qu'on ne va pas bien si on se met à peindre des pierres?
Non, je pense qu'on cherche dans le minéral, c'est... Oui, on cherche, je ne sais pas, je savais ce qu'elle cherchait, mais,
oui.
Mais elle était dans la marine, il faut dire, surtout, elle était avant.
Oui, mais c'était, vous aviez, il y a un truc un petit peu... Si jamais quelqu'un autour de vous commence à faire de la peinture sur pierre, appelez-nous.
Il y en a qui peignent sur des moules aussi, j'ai vu ça. Des coquilles de moules.
Ne laissez pas les gens trop seuls.
Alors nous on est, moi je suis avec José, qui nous entend là, qui rigole, on est rue de la Paix. Donc rue de la Paix, José, on en était où ? Il y avait des braquages. Voilà. Il y a des braquages. Il y a le président du Mexique à l'hôtel Westminster, c'est ça ?
Ah bon ?
Il y a pas de boulangerie, il y a pas de tabac, pas de boulangerie, pas de tabac. Il y a des joggeurs tous les jours. Et vous, tous les jours, vous prenez votre petit plumeau, vous nettoyez la tête de lion. Vous nettoyez la tête de lion tous les jours.
Monsieur José, où est-ce qu'il y a une tête de lion rue de la Paix ?
C'est dans où je travaille.
D'accord, mais alors la rue de la Paix, elle est connue pour ses bijouteries ?
Ah oui, très connue. Hein.
Donc il y a énormément de braquages ?
Voilà, presque une fois par mois, ou tous les mois pratiquement.
Donc c'est presque une habitude, ça fait partie d'un petit commerce du quartier ?
Voilà, ça fait partie du commerce.
Il y a le boulanger, le bijoutier, le braqueur.
Ah non, il n'y en a pas, boulangerie, tabac, il n'y en a pas là.
Il n'y a pas de braquage à la boulangerie ?
Non, il n'y en a pas.
Et le braqueur, c'est des braquages un peu violents à main armée ou c'est des types qui font semblant d'acheter, qui se barrent ? Oh, je vais regarder ma bague au soleil et ils courent.
Non, enfin, c'est des gens qui passent pour dire je viens emmener quelque chose, un truc, n'importe quoi. Et après, ils mettent tout le truc de gaz dans les, dans les yeux et après, ils partent tranquillement, à pied, sans rien. Vous, le dernier que vous avez vu, c'est un homme qui est parti avec plein de montres. Hein. C'était un homme horloge. Oh, oui, voilà, tout à fait.
Il avait des montres plein le bras.
C'était en face. C'était en face, c'est quartier.
Alors José, vous êtes spécialisé sur les têtes de lion.
Ah, je suis spécialisé dans tout.
Donc
les deux têtes, là, vous les aimez bien. Quoi. Ah aussi, les deux têtes de lion, je les adore.
Vous faites reluire la rue de la Paix. Un immeuble en particulier, vous vous occupez ?
Non, c'est un immeuble, mais enfin, c'est une boutique.
Est-ce que grâce à vous, on peut dire que c'est la boutique qui rayonne le plus dans la rue de la Paix, José ?
Je crois que oui.
C'est une boutique de quoi ?
De prêt-à-porter.
Et pourquoi il y a des lions ? C'est pour habiller des lions ?
Non, c'est parce que c'est une porte en fer, il y a une tête de lion.
Elle est en quoi, cette tête ?
C'est en bronze.
Et comment vous faites, comment on récupère le bronze ? On travaille sur quel produit ?
On a un produit spécial qu'on passe une fois par mois pour revenir la tête.
C'est une petite crème qui est toute préparée, donc qui est une fois
que... Fait.
Petite...
Une petite beauté comme les femmes.
Une petite beauté, la petite beauté de mon petit lion. Alors, voilà. José, vous nous avez un petit peu arnaqué, vous m'avez dit je suis frotteur de lion, mais c'est une seule journée, moi je compte 30 journées par mois. Est-ce qu'il y a 29 journées où vous attendez ou vous faites autre chose les 29 autres jours ?
Ah non, je fais autre chose.
Vous êtes toujours sur la boutique ou sur l'immeuble ?
Non, je suis toujours sur la boutique. Je fais du nettoyage dans la boutique.
Est-ce que, comme beaucoup d'hommes qui, tout en étant hétéros, sont attirés par le vêtement féminin, il vous arrive d'essayer une ou deux robes pour voir l'effet que ça fait ?
À deux fois, oui.
Et alors, ça vous allait bien ?
Ah, ça me va en pec.
Et vous êtes allé montrer à votre femme ?
À jamais.
Non, ça restera un secret entre nous. Vous savez, on est assez peu écoutés, c'est une radio confidentielle. Et vous êtes plutôt... Qu'est-ce qui vous va le mieux, José, en robe ? Court, long, quelle couleur ?
Les deux.
Les deux ?
Non, plutôt rose.
Plutôt du rose. Est-ce qu'il y a une petite robe qu'on pourrait vous offrir, José ? Quand est votre anniversaire ?
Ah, mon anniversaire, c'est au mois d'août.
Très bien. Ben, en août, vous êtes, ce sont des tarifs... ils pratiquent des tarifs calmes, cette boutique ?
Calme, je ne sais pas quand je vais vous appeler calme. Hein.
C'est rue de la Paix quand même.
Oui, c'est rue de la Paix.
C'est des trucs à partir de 100 et quelques euros.
Ouais. Bon, bah, écoutez, on va prendre en l'entrée de gamme alors. Hein.
On va être coupé par la pub dans 10 secondes.
On va être coupé par la pub. On vous embrasse, José. On vous doit une petite robe entrée de gamme. Merci,
très
on
bien.
Vous embrasse.
Merci bien, bonne journée
salut,
à vous.
Salut.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Dominique Reynier. bonjour.
Bonjour Edouard Baird.
Après les remarques à chaud, les réactions hier soir dans les émissions de télévision, de radio sur les élections, alors qu'on n'avait pas tous les résultats, on a passé une nuit, on a tout. Et vous avez dormi, vous avez réfléchi, et une intelligence telle que la vôtre va nous tirer le meilleur de ce qu'il faut retenir de ce premier tour d'élection législative.
Non, ce sont des élections atypiques, sans aucun doute. Un résultat comme celui-là, on ne l'a jamais vu depuis que les élections législatives existent en France, quand même, hein, il faut dire ça, en termes de bouleversement, en termes d'abstention aussi. Et au fond, il y a là-dedans même quelque chose qui a à voir avec une forme de radicalité. Et ces gestes électoraux, ces décisions électorales que l'on attendait du côté du Front National, on pensait qu'il pouvait y avoir à un moment donné, moi je l'ai pensé aussi, hein, une espèce de triomphe à un moment donné électoral des populistes. D'une certaine manière, ça se passe, mais autrement, les Français ont poursuivi deux objectifs. Le premier, qui est pour une partie d'entre eux de donner une majorité à Emmanuel Macron, de lui faire confiance. Ça, c'est dans la continuité du premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, un deuxième projet pour une autre partie des Français, parfois les mêmes, qui est de destituer la classe politique installée depuis longtemps. Mais c'est vraiment très puissant, hein. C'est-à-dire que les électeurs de droite qui sont restés chez eux, il ne faut pas y voir nécessairement un comportement passif, c'est aussi une façon de laisser le processus s'accomplir et au fond, le départ de cette classe politique qui avait en quelque sorte cartélisé le système. Et je pense que là, il faut vraiment mesurer cette exaspération des Français qui s'exprime sous une forme très civilisée et pacifique, hein, puisqu'il s'agit d'élections ou d'abstention. Mais c'est radical, on n'a jamais vu ça. Il y aura dans quelques jours une assemblée, bien sûr, composée de nouveaux comme jamais, de novices comme jamais. Et d'une façon générale, les têtes de liste, les têtes d'affiche à gauche comme à droite, qui ont été ou bien obligées de ne pas se présenter ou bien défaites hier, marquent nécessairement un renouvellement que les Français veulent peut-être même plus que le programme d'Emmanuel Macron. Il n'est pas exclu que les Français aient considéré que le grand changement apporté par Emmanuel Macron, au moins ce serait ça, et que ça, ils peuvent l'obtenir, soit en continuant à voter pour lui, soit avec une forme de désengagement actif, quasiment.
Et pourtant, vous parliez au début de cette phrase d'une part de populisme.
Il y a quelque chose de... Il y a une insurrection contre la classe politique, ça c'est certain. Et regardez le caractère désinvolte à gauche comme à droite. Le Parti Socialiste, il faut le dire, à mon avis, subit une espèce de sanction électorale décalée. Ce qui ne s'est pas joué à la présidentielle pour les raisons que l'on sait, parce que c'était en gros Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il ne s'agissait pas de faire le bilan de François Hollande. Ça se joue ici à une sanction contre le PS, mais la droite. La droite, elle a eu 5 ans dans l'opposition pour faire une offre à la France, aux Français, pour leur dire « voilà, on a un projet pour vous, il est enthousiasmant, on a des candidats, etc. » Non, ils ont passé 5 ans à se disputer pour savoir qui allait gagner la présidentielle. Et ce moment-là a donné aux Français le sentiment que, insatisfaits, eux, les Français du Parti Socialiste, ils n'avaient pas une proposition qui leur venait de l'opposition de droite, qui, au fond, comptait de façon très paresseuse et un peu méprisante, comptait sur le retour du balancier. Vous avez la gauche, de toute façon, elle ne vous plaît pas, donc vous avez bien à voter pour nous, on mettra nos candidats, vous serez obligés de voter pour eux. Et là, rien ne pouvait se dénouer, sinon de manière assez dramatique, avec un vote populiste qui pouvait être majoritaire. Et d'une certaine manière, ce qu'a capté Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il en a eu conscience au moment où il l'a fait, c'est de dire, voilà, moi je vous propose une option, on casse tout ça, mais sans mettre en péril ce à quoi vous tenez. Et d'une certaine manière, ils disent oui, y compris en s'abstenant. Je crois que cette abstention-là, il faut la voir, elle est spectaculaire, hein, mais il faut la voir aussi comme un comportement plus actif qu'il n'est paraît.
Dominique Régnier, est-ce que vous avez l'impression que, avant le fond de ce que va faire l'équipe Macron, c'est le style qui est un peu récompensé pour lequel les gens ont voté aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une adhésion au style Macron depuis un mois d'élection ?
Alors en termes de... ces mots sont un peu affreux, mais enfin on est bien obligé de les utiliser en termes d'image. Emmanuel Macron est très bien jugé par l'opinion, plutôt bien jugé par l'opinion. Mais en même temps, regardez, il y a une espèce de classicisme dans son comportement, une forme de tenue qu'il a manifestement réfléchi et qu'il a beaucoup mis en scène. On me dit que c'est un grand lecteur au sens sérieux du terme de Machiavel. Ça se voit d'une certaine manière, parce que Machiavel a des considérations très, très précises sur la manière de se vêtir, de se tenir, de parler quand on est un prince. Ce sont des pages d'ailleurs tout à fait extraordinaires à voir aujourd'hui. Il y a donc une forme de respect qui peut émaner de cette interprétation de la fonction. Maintenant, cette révolution-là qui a eu lieu et qui se continuera dimanche prochain, elle donnera, ce sera une partie de l'acquis et les Français vont prendre ça parce qu'ils savent comment ils le tiennent. Après, on arrive dans une situation où véritablement peut se jouer une forme de tragédie, hein, parce que la politique, c'est ça. Et d'un côté, pour le dire en des termes très pratiques, mais d'un côté, l'Allemagne qui aura son chancelier, probablement une chancelière, l'Allemagne va dire de manière beaucoup plus dure à la France, les réformes maintenant, vous les faites et tout de suite. Ce sera une discussion beaucoup moins avenante que celle qui a eu lieu jusqu'à présent et qui était assez douce pour des raisons électorales. Et de l'autre côté, quand ces réformes-là seront appliquées, parce qu'il faudra les appliquer, la réaction d'une partie du corps politique et du corps social français sera très négative. Et il n'y a pas d'opposition au sein de cette Assemblée. Hein. C'est une drôle de chose. Hein. Il y a une énorme 450 députés en marche.
Dans ces cas-là, c'est dans la rue que l'opposition est dans la rue.
Il y aura une radicalisation parce qu'on aura probablement Marine Le Pen, peut-être Jean-Luc Mélenchon, on verra bien. Donc vous voyez, ce type de figure, mais sans troupes parlementaires. Mmh. Et donc plutôt une déparlementarisation, la rue, les réseaux sociaux aussi, et puis des formes que nous n'avons pas à l'esprit aujourd'hui et qui apparaîtront. Personne n'avait vu venir Nuit debout. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était tout à fait original. Ça pourrait se multiplier, prendre des formes très diverses et surprendre beaucoup. Il n'y a pas de raison, en tout cas, et ça c'est un point, à mon avis, très important, que ce qu'on appelle le dégagisme, depuis que Mélenchon a utilisé ce terme, qui est un terme qui décrit bien la situation d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de considérer que ça va s'arrêter le 18 juin, comme si la bête avait enfin assouvi sa soif.
Merci Dominique Reynier.
Merci Norbert.
7h, 9h, plus près de toi.
Scandaleusement à l'heure, le journal de Thierry Paré.
Moins d'un Français sur deux s'est rendu aux urnes hier pour le premier tour des élections législatives. Voilà pour le cadre. Après abstention ou pas, il y aura des élus et ils voteront les lois qui régiront notre quotidien. C'est bon à savoir avant le deuxième tour. Ces élus, ils pourraient bien porter les couleurs de la République en marche. Le mouvement d'Emmanuel Macron pourrait disposer d'au moins 410 députés dimanche prochain, soit l'une des majorités les plus fortes de la 5e République. Allié au Modem, la République en marche a recueilli hier 32% des voix. Le bloc LR-UDI arrive deuxième avec 21-22%. La droite limite la casse puisqu'elle pourrait disposer d'une centaine d'élus contre quand même le double dans l'Assemblée actuelle. Symbole du désarroi qui règne à droite, la deuxième circonscription de Paris, réputée imperdable pour LR, a placé le candidat de la République en marche largement en tête devant une multitude d'adversaires se réclamant du camp conservateur et notamment Nathalie Kosciusko-Morizet qui est arrivée deuxième. En troisième position, on trouve le FN qui avec 13% peut espérer plus d'une dizaine d'élus dimanche prochain, dont Marine Le Pen puisqu'elle est arrivée nettement en tête dans son fief du Pas-de-Calais. Avec 11% des voix, le mouvement de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui-même qualifié pour le deuxième tour à Marseille, peut espérer au moins 8 députés, au mieux 18. Tout dépendra évidemment du second tour dimanche prochain. Du côté du PS, c'est pas la joie. Le Parti Socialiste obtient un peu plus de 7%, 9 si on y ajoute les radicaux et divers gauches, de quoi lui assurer entre 20 et 30 élus à peine, contre près de 300...
Vous inquiétez pas, la semaine prochaine vous avez le second tour, dans un mois les municipales, dans deux mois les cantonales et les présidentielles dans 3 mois.
Et les régionales alors.
Les régionales on y vient, et les européennes.
Voilà donc près de 300 en 2012, donc là ils en auront que 20 ou 30. Certains socialistes macro-compatibles ont réussi à sauver leur tête, c'est le cas de Manuel Valls à Évry qui est arrivé en tête, donc Marisol Touraine aussi en Indre-et-Loire, Stéphane Le Foll dans la Sarthe, Terminus en revanche pour Benoît Hamon, éliminé à Trappes, et puis surtout Jean-Christophe Cambadélis, sorti dès le premier tour dans le 19e arrondissement de Paris. Toujours à Paris, Cécile Duflot a elle aussi été éliminée dès le premier tour dans le 20e arrondissement, malgré le soutien du PS, alors que dans le 18e, Myriam El Khomri, pourtant soutenue par La République En Marche, a été, elle, par contre, distancée de 10 points par un proche d'Alain Juppé. Les ministres du gouvernement Macron sont tous en ballotage favorable.
On est vraiment con parce qu'on aurait demandé des investitures En Marche. On serait tous députés maintenant.
Tous députés, peut-être,
même Villani avec ses énormes cravates, il va être député. J'ai l'impression que
le macaron gagnant, tu mets La République En Marche, ouais, tu gagnes.
Tout, mais même à ta boutique, tu vends ce que tu veux. Tu vends des jeans et aujourd'hui tu vends des fromages.
C'est comme le truc vu à la télé, quoi.
Je ne les ai pas en tête, mais il y a 4 candidats qui ont été élus dès le premier tour. Il y en a 2 pour La République En Marche et 1 UDI.
Vous ne les avez pas en tête. Vous les avez où?
Précisément, je ne sais pas.
Dans le deuxième arrondissement, qui a gagné?
Dans le combien?
Deuxième arrondissement.
Non, voilà. Il a été battu, le type, là, Le Garret. Voilà, là, il y a un élu au premier tour de La République En Marche. Pourtant, c'est difficile à dire.
Et puis 3, c'est le troisième Roland Garros de Raphaël Nadal.
Non, Atman, c'est pour vous faire réagir, ça.
Vous vous présentez 10 fois.
Pardon, monsieur, 3, c'est le troisième Roland-Garros de Raphaël Nadal, sans perdre une seule manche.
Ah, oui. Bien.
4 aces.
Voilà, sans perdre une seule manche. Sinon, effectivement, 6, c'est 10.
666, le diamètre est là. Et voilà. Nicole Kidman aussi.
Donc Rafael Nadal a surclassé Stan Wawrinka hier. 3-7, 6-2, 6-3, 6-1. Et puis un autre chiffre pour finir comme ça. Nadal a lâché. Il a lâché 35 jeux durant cette compétition. Et c'est un record. Enfin, c'est son record, pardon, parce que le record du tournoi, il est détenu par un certain Björn Borg. Ça parlera au plus ancien. Il avait perdu 32 jeux seulement. Et c'était en, c'était hier, en 1970.
Mais Nadal, il était présenté par La République En Marche.
Aussi. Oui,
ah oui,
aussi.
Il avait pas, évidemment.
Dans toutes les spécialités, on passe.
Ouais. Et le comportement de Nelson Montfort qui va chercher les larmes au cul du camion de son entraîneur, de son oncle Tony, là, t'es indécent pour moi.
Ah, excuse-moi, avec Edouard, on n'était pas devant la télé.
On était en marche. vous vous êtes au concours de pêche de votre région, vous êtes présenté avec le logo République En Marche, donc vous avez pris des.
Moi j'étais à la pétanque,
j'étais dans une boîte de nuit et j'ai abordé des jeunes femmes. J'ai abordé des jeunes femmes qui d'habitude ne me répondent pas. Et là je dis oui, mais enfin, en marche. Et allez, on s'embrasse. Soupe de langue. Merci beaucoup. Tito fait pas de météo, il est au bistrot, il l'a fait à 8h30.
Il n'est pas en marche, Tito.
À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baer.
Mets ton casque, ma chérie. Mets ton casque, Jeanne, qui a cours à 8h30 à Gambetta.
Oui. Non, à 8h. Oui, à
8h. Avant 8h30, faut y être. Mais parfois, si on arrive à discuter, on peut. Si tu dis que tu es en marche ou des trucs comme ça, tu m'attends. Ça passe partout pendant quelques jours. Je suis un peu déçu parce que moi, je pensais qu'en. C'est en CM1 que tu es.
Oui.
Je pensais qu'à partir de juin, c'était vraiment des jeux, des trucs, non?
Non.
Aïe. Comment ça se fait? C'est sérieux, cette école?
Bah. Oui, mais des fois, après, par exemple, après les cours, quand on a fini notre travail, on peut lire ou
mais discuter. Sur place, tu veux dire
Bah oui.
Mais je veux dire, la maîtresse, ils n'organisent pas des choses spéciales pour juin, d'aller tous au jardin ou de faire des choses.
On fait des sorties, mais on n'en fait plus beaucoup à cause du plan Vigipirate.
Ah bon, c'est vrai, je ne savais pas que Vigipirate avait fait baisser les sorties.
Bah si.
Et alors, la dernière, c'était quoi?
La dernière, c'était une sortie au château des Couans.
Oui.
Où on a fait un concert.
C'est Renaissance et Couans, je crois. Et dis-moi, peut-être pour Vigipirate, alors on peut visiter des choses armées, on peut visiter un char, un avion, une bombe. Un peu comme ça, on est protégé, visiter le musée de l'uniforme militaire.
Les Invalides.
Oui. Non, on peut trouver des activités qui lient le plaisir de Vigipirate aux joies de la découverte.
Non, mais d'habitude, c'est vrai qu'en juin, on repeignait les tableaux, on refaisait les tables, ça commençait là, les activités.
La maîtresse se détendait et elle disait des choses plus personnelles. Non, mais c'est peut-être pas encore.
Non. Il y a des pâtes de fruits. Moi, je me rappelle, il y avait des pâtes de fruits.
Écoutez, mon vieux, foutez la paix à Jeanne, qui n'a pas 95 ans comme vous. Et à l'époque, on remplissait notre plumier avec. Jeanne, le poème que tu as apporté, c'est un. Parle-nous-en.
Bah, c'est un poème de Roberto Juarros, qui est dans le recueil de de 13e poésie verticale.
Oui.
13e poésie verticale, c'est plusieurs poésies de Roberto Juarros.
Que tu as entendu parler ou c'est à l'école qu'on en a parlé de Roberto Juarros?
C'est Renata qui m'a donné ce poème.
Qui est Renata?
C'est quelqu'un qui fait de la poésie à l'école.
Oui.
Et qui est là le lundi. Quand
enfin, Renata, dis donc, arrêtez, foutez la paix à notre conversation, à Jeanne et moi. Allez dans la cour de récré, là, c'est le mois de juin. Non, mais restez. Il y a quelqu'un qui vient exprès pour la poésie à l'école?
Oui.
C'est formidable, vous avez de la chance. Eh bien, on écoute ce poème, alors.
13e poésie verticale, de Roberto Juarros. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire, sauf parfois l'équilibre du monde. En obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance.
Très beau. Alors, je vais te donner. Viens à côté de moi. Ce que je trouve très beau, c'est que tu as donné. Là, tu as vraiment donné à entendre le poème pour les gens qui ne le connaissaient pas. Maintenant, on va réfléchir à une autre façon de le dire qui est possible aussi. Ou si tu oubliais qu'il y avait d'autres gens, où tu le disais vraiment pour toi. Tu le disais vraiment pour toi. Ferme les yeux et réfléchis à ce que les deux premières phrases. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
J'ai mangé un petit déjeuner.
Elle m'a dit exactement pareil aujourd'hui.
Aujourd'hui
dit... Non, exactement pareil. Comme tu m'as dit, j'ai mangé un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Je n'ai rien fait. Mais beaucoup de choses se sont faites en moi.
Voilà, la première phrase était bien, mais tu as re-récité la seconde. On recommence, pense juste à ma question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Je n'ai rien fait. Et beaucoup de choses se sont faites en moi.
Ah bon? Comme quoi?
Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid.
Oui.
Des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence.
Attention, oui.
De rien faire, sauf parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance.
Merci beaucoup, c'était un poème de Roberto Juarez, dit par Jeanne. Ne rien faire, vaste programme.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Merci beaucoup. On est avec Jack souvent dans la rue, au cœur d'un Paris très touristique, très
cher. Oui, tout à fait. Pardon, Edouard. Mais là, je suis sur le trottoir international. Je ne sais pas, c'est l'arrêt de bus à Opéra. Tout le monde va à Roissy, tout le monde va à Euro Disney, tout le monde... Voilà, on rencontre de toutes les langues, les nationalités. Et... il y avait garé un bus absolument, un bus de luxe, je ne sais pas, c'est un bus VTC de luxe, avec Ahmed qui était au volant, mais maintenant il est en train de charger les bagages. Là, il est sur son téléphone portable et j'ai arrêté, c'est comment déjà, Julien ?
Julien.
Julien, pour lui demander où ils allaient, parce que le chauffeur n'a pas voulu me donner la destination. Il a dit, je ne peux pas, c'est secret.
Ah oui.
Alors on va à Fontainebleau et on va lancer le truc comme ça.
On ne peut pas vous dire pourquoi, on ne peut pas vous dire pourquoi.
Julien, il y a beaucoup de secrets autour de la ville de Fontainebleau en ce moment.
Bah oui, mais... Je comprends bien. Fontainebleau, il ne faut pas oublier que c'est quoi ? C'est la demeure des siècles, c'est ça ? D'après un certain monsieur qui inspire un autre monsieur d'aujourd'hui.
La légende des siècles.
La légende, hein, c'est ça, et, excusez-moi.
Et dites-moi, alors, Fontainebleau, c'est aussi, bien sûr, c'est l'histoire, c'est la poésie, mais il y a la forêt, il y a les rochers, il n'y a pas que le château de Fontainebleau, il y a les fameux adieux de Napoléon, de Bonaparte, avant de partir pour l'île d'Elbe. Vous allez plutôt dans une optique napoléonienne ou dans une optique varap ?
Alors en fait, napoléonienne, c'est la conquête des infrastructures européennes.
Alors ça, c'est pas le séjour de tout le monde, hein ?
Non, je suis d'accord. De tout pas... le monde, c'est l'embouteillage d'habitude le dimanche soir.
Oui, le dimanche soir, c'est le retour de la forêt. Le lundi matin, c'est le départ pour les infrastructures européennes. Il va donc y avoir une sorte de congrès auquel vous allez participer, alors, Julien ?
C'est un congrès à une vingtaine de personnes. On va essayer de savoir, on est des ingénieurs qui ne savons pas vendre. On va essayer d'apprendre à vendre et notamment ce que c'est que l'investissement dans les infrastructures. C'est un peu, c'est pas le plus marrant. Hein. Je vous ai connu plus drôle.
Non, moi je m'éclate là. Je pense vendeur, acheteur. Je vois déjà un beau rapport possible. Trouver des acheteurs en forêt de Fontainebleau, c'est une belle mission pour vous.
On est d'accord que c'est difficile. Alors, ce qu'on a envisagé, c'est de construire une grosse route à travers la forêt. Ça vous plaît ou pas ?
Ils sont beaux vos projets. On voit l'ingénieur qui connaît. Quand on dit que les ingénieurs sont déconnectés du réel, pas du tout.
Mais pas du tout. Hein,
vous avez les mains dans le cambouis là.
Exactement. Oui. Tout le monde veut une route dans Fontainebleau.
Alors Julien, derrière congrès, il y a congressiste et le congressiste, c'est un être humain avec ses rêves, ses peurs et ses désirs aussi. Y a des repas de prévus, des rencontres avec des populations locales ?
Alors, population locale, je n'oserais pas aller dans cette direction, mais des repas probablement. Oui, probablement.
Alors, il paraît que le but, ce que vous allez prendre là, est très luxueux. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Bah déjà, je suis dedans.
Ah oui, c'est vrai que c'est indécent de luxueux.
Bah, bien sûr. Tout de suite, ça crée une différence monstrueuse, en tout cas pour moi.
Bah, vous êtes habitué à ce que vous soyez dans les endroits où vous êtes ?
Moi, écoutez, c'est... une des grandes difficultés pour moi, c'est que je me suis partout.
Voilà, à chaque fois que vous êtes là, vous y êtes. Il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Hein. Bah moi, je connais des gens qui vont si mal que même quand ils sont là, ils n'y sont pas. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les absences momentanées, voire permanentes pour certains.
Vous vous entendez bien avec vous-même, Julien, ou pas ?
C'est difficile. Il faut savoir qu'il y a des moments où je me saoule.
Qu'est-ce que vous aimez bien chez vous ?
Ce que j'aime beaucoup chez moi, c'est ma grande curiosité intellectuelle, la passion pour les routes notamment.
Oui, c'est beau.
Des forêts. Ah bah oui.
Vous aimez les routes pour elles-mêmes ou pour leur direction, pour le mouvement qu'elles procurent ?
Le gros désavantage de la route, c'est qu'on ne peut pas y marcher.
Ah bon ?
On peut y rouler. Ah oui.
Ah, les autoroutes.
La route en marche, c'est dur. La route en marche, c'est dur.
Vous savez, tout ce qui est en marche en ce moment, ça marche très bien. Dites le mot en marche, vous vendez ce que vous voulez. Hein.
Exactement. C'est pour ça que j'ai testé la route pour marcher, mais les gens me disent que c'est pas ça qu'ils veulent.
Moi, dimanche, il y avait mon marchand de fruits et légumes. Il y en a qui commençaient à cause du soleil à être un peu pourri. Il dit, mais c'est des légumes en marche. C'est parti en 5 minutes. Hein. Alors, Julien, bon Fontainebleau. Vous habillez comment pour ce petit lundi de séminaire?
Alors, une petite, comme on dit, de manière très détendue et très francophone, casual.
Casual, là, voilà, c'est un petit clin d'œil à nos amis anglais, c'est-à-dire l'air de rien.
Exactement.
Une sorte de décontracté rien. Très français. Je pense qu'il y a un pantalon assez souple, peut-être pas un lin, mais une cotonnade qui se froisse assez bien. On est sur un soulier de ville qui est pas loin de la basket, mais qui reste ville quand même.
C'est ma petite confession à moi. À Fontainebleau à lundi matin.
Ah, je peux pas vous garder, je peux pas garder un mec en basket à l'antenne. Salut Julien.
Au revoir monsieur.
Il y a des limites. Bonne route pour Fontainebleau. Faites attention, Jack.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Merci, vous aussi maintenant. J'aime bien. Jack, tenez-vous à carreau, ne mettez pas des mecs en basket à l'antenne.
on fera gaffe.
Ok, à tout de suite. Alors, je suis obligé d'arrêter ce morceau pour des raisons de quota. Atmed, vous avez face à vous Marie Missé.
Oui, et c'est quelque chose.
Oui, et ben, Yana, vous avez bien de la chance.
Oui, si les auditeurs voyaient ce que je vois.
Jingle.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonsoir.
Marie, bonjour.
Bonjour.
Arrêtez avec les bonsoirs. Hein.
Ah, c'est la première fois, c'est la toute première fois. Mais j'arrête.
Vous n'avez pas passé une nuit blanche?
Ah, j'ai fait une petite insomnie, mais forcément.
Vous n'êtes pas allé à ce festival, beaucoup de gens dans la région parisienne sont allés à Willow Green.
J'y étais samedi.
Oui, les gens étaient habillés en blanc d'ailleurs.
Non.
Si.
Ça dépend, parfois il y en avait des gens habillés en blanc.
Comme chez Barclay, comme chez Eddie Barclay, tout le monde était en blanc. Ah, si, je l'ai vu dans Paris.
Non, ça c'était
le dîner en blanc.
Enfin,
ah oui,
ça n'a rien à voir.
Alors je me suis
trompé. C'est un dîner de gens de l'Ouest parisien, de Versaillais, avec des gros cigares.
Ils sont blancs de visage et de corps, et de vêtements.
Alors, Marie Missé, on a déjà eu son jingle.
Oui, on est parti.
On est
la
parti.
Revue de presse. Qui a écrit dans l'édition du jour « Le roi des terriens a accompli son chef-d'œuvre, toutes les perspectives sont bouleversées. » C'est que la fête commence.
Que la fête commence, puisque ça a été repris par Tavernier. C'est un extrait de... on est à la Régence. Un auteur de la Régence, c'est pas...
C'est la une de l'équipe. C'est la une de l'équipe pour la victoire de Nadal à Roland-Garros. Alors, dans les autres journaux, on n'en est pas affiché une adoration aussi éperdue pour le roi du jour, mais on reste unanime. La Croix-Titre, la vague Macron. Les Échos, législatives, l'effet Macron. Libé, législative, l'OPA, le Parisien, un coup de maître, Ouest-France, en marche et loin devant, le Figaro, en marche vers une majorité écrasante. Seul, comme toujours, l'UMA refuse le titre choc et préfère l'explicatif, l'abstention majoritaire, le risque d'une chambre bleue Macron. Très subtil clin d'œil à l'expression bleu marine. Si l'abstention n'apparaît pas dans les titres chocs, elle se fait une place dès l'édito.
Excusez-moi, c'est la chambre bleu horizon qui était la fameuse grande chambre qu'on avait eue avant-guerre où tout le monde était droit. C'est pas lié à Marine Le Pen.
Oui, oui. Très bien, merci Edouard. Après, dans l'imaginaire actuel, ça fait plus référence, j'entends plus bleu marine que... Bon, bref. Si l'abstention n'apparaît pas dans les titres chocs, elle se fait une place dès l'édito ou dans les pages suivantes. Le titre de Libé en deuxième page, abstention partout, opposition nulle part, résume peut-être mieux le résultat des élections, tandis que le Parisien précise qu'on a dit aux équipes Macron de faire profil bas, de pas trop la ramener. On peut pas faire la fête quand il y a 50% d'abstention. Il n'y a pas eu de toast, lit-on plus loin. Seule concession faite à la fête et à la célébration. Apparemment, au QG de campagne, on picorait des ravioles à la bisque de homard.
Quelle honte, quelle indécence. Quel Atmen qui était tout seul à la retour.
Tout seul.
Ouais,
j'avais pris un pâté assiette, et un petit ballon rouge. J'ai dû payer.
Dans le Figaro, on parle d'une victoire en illusion d'optique. Dans Ouest France, en édito, on parle carrément d'un faux triomphe pour le parti présidentiel qui va devoir faire voter des lois difficiles, faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun et au passage enterrer quelques libertés publiques, réformer le droit du travail et puis
Les lois sur la fiscalité. Ouest-France termine sur ces mots. Mieux vaut avoir l'opposition au Parlement que dans la rue. Et puis dans Libé, on s'étonne. Au lendemain de la présidentielle, on s'attendait au retour de la 4e République, hein, qui était connue pour avoir un Parlement tellement divisé que ça bloquait pas mal de choses. Finalement, c'est la 5e République présidentielle fatiguée qui spectaculairement triomphe. Les Français aiment autant crier à mort le roi que vive le roi. Décidément, dans les journaux comme en politique, on a du mal à penser autrement qu'en se référant au passé. Tout ceci me fait penser à un post de blog de Rob Hopkins. C'est une petite star dans son milieu, initiateur du mouvement Villes en Transition qui permet aux villes qui participent de coordonner leurs initiatives de transition vers un monde nouveau. Ça passe par des projets énergétiques, des projets de monnaie locale, d'agriculture locale. Il a écrit un post qui s'appelle « Pourquoi j'écris un livre sur l'imagination ?» Il explique qu'en tant qu'activiste, il aimerait que les choses aillent plus vite, mais se rend compte qu'on a beau aller plus vite, on n'est pas toujours capable d'inventer un nouveau monde, que pour pouvoir le créer, il faut d'abord l'imaginer. Et quand dans un monde qui élit Trump sur la promesse de revenir en arrière, ou qui voit dans une campagne présidentielle française les candidats se référer en permanence à Charles de Gaulle, il y a un manque cruel d'imagination pour un futur nouveau, souhaitable, que la première étape du changement, c'est finalement de travailler ce muscle qu'est l'imagination, un muscle aujourd'hui un petit peu atrophié, un petit peu mou. On parle beaucoup de créativité, dit-il, peu d'imagination. Or, inventer un monde nouveau, c'est la condition pour pouvoir le créer. Si ça ne veut pas dire pour autant que le passé, il faut en faire table rase, dans cet esprit-là, on peut toujours recycler de vieux slogans. Autant donc utiliser celui-là, l'imagination au pouvoir.
Merci beaucoup, Marie Missé, ces beaux slogans de 1968. Atmen, donc vous étiez...
À la rotonde.
Vous étiez à la rotonde. Ce restaurant, vous aviez vu que vous aviez espéré que Emmanuel Macron
était sur la photo. Ouais.
Donc vous êtes arrivé tout seul. Vous dites est-ce qu'ils sont arrivés?
Voilà, je suis arrivé. J'ai dit la table est réservée, elle est prête. On m'a dit mais mettez-vous là.
Oui, mais on ne comprenait pas à quoi vous faisiez allusion. Vous aviez votre petit nœud papillon du dimanche.
Tout à fait. J'avais
vos petites économies, mais en même temps vous espériez bien.
Mon petit macaron, sans mauvais jeu de mots.
Vous commencez à vous inquiéter. Lynn Renault n'est pas là. Stéphane Bern n'apparaît
non
pas.
Non plus. Pierre Arditi, mon Pierrot n'était pas là.
Donc vous arrivez seul là pour votre rubrique mondaine. Vous espérez être au cœur de la macronie.
Je commande un Bloody Mary déjà pour fêter le truc.
Alors vous voyez vos économies, vous renoncez très vite, vous êtes sur un pot de brouilly.
Tout à fait.
Et on dit, ils vont payer, ils vont arriver.
Ils vont payer. Ils commencent à me faire une note, les gens attendent. Un maître d'hôtel s'avance vers moi et me dit ils vont arriver, attendez.
Ils vont arriver.
Et je vais aux toilettes deux, trois fois, je reviens, personne. Oui. Que dalle, Nib.
Parce que les toilettes, c'est gratuit.
C'est gratuit, voilà. Tout ça.
Et vous attaquez le fameux sandwich au pain qu'on connaît. Quand on n'a pas d'argent, du pain, de la moutarde avec un supplément ketchup avec du sel et du poivre.
Voilà, je m'incruste à une table de jeunes, pas de vieux retraités qui fêtaient, je pense, un jubilé, et puis ils m'invitent à manger une.
Et puis pas de Macron.
Et pas de Macron, il se passe plus
vous
rien.
Êtes là, pas de.
Et voilà, une petite victoire.
Lèche-cul pour rien.
C'est le titre de mon livre.
Il n'y a pas de cul à lécher, on s'ennuie beaucoup. Merci beaucoup.
7h, 9h, plus près de toi. Ça va ?
Plus près de toi.
7h, 9h. Édouard Baird,
7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Et Thierry Paret, fidèle, 8h30, le rappel des titres. 31.
Ah, vous en voulez du chiffre, hein. Je vais vous en donner.
T'aimes ça, hein.
Il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale. Le mouvement La République En Marche d'Emmanuel Macron, qui a obtenu 32% des voix hier, est en passe d'en occuper, donc des sièges, hein, entre 400 et 455.
Attendez,
donc...
pardon, il y a des stagiaires, elles veulent assister à votre journal qui est légendaire. Mesdemoiselles, asseyez-vous là. Là. Non, la dame n'est pas stagiaire. Fermez-lui la porte au nez. Ça doit être la maman qui vient embêter sa fille pendant le stage.
Voilà, donc 400 et 455 sièges pour Emmanuel Macron, pour le mouvement d'Emmanuel Macron. Donc largement plus que les 289 sièges nécessaires à la majorité absolue. Et il ne restera pas grand-chose du coup pour les autres, hein, évidemment. Les autres, c'est d'abord le bloc LR-UDI qui arrive deuxième avec 21-22% des voix. Les deux formations pourraient disposer d'une centaine d'élus dimanche prochain, ce qui est pas mal. Il y en avait quand même le double dans l'Assemblée actuelle.
Symbole.
C'est fini. C'était du temps. C'est révolu.
Vous en avez croqué à l'époque.
Symbole du désarroi qui règne à droite. La deuxième circo de Paris, réputée imperdable pour LR. Oh, me le permettez ou pas?
Oui, je vous en prie.
Ok.
Ça fait toujours un peu bizarre.
Réputée imperdable pour LR, a placé le candidat de la République En Marche largement en tête devant une multitude d'adversaires se réclamant du camp conservateur. Nathalie Kosciusko-Morizet en tête. En troisième position, on trouve le FN qui, avec 13%, peut espérer plus d'une dizaine centaine d'élus dimanche prochain, dont Marine Le Pen, puisqu'elle est arrivée en tête nettement dans son fief du Pas-de-Calais.
Et Florian, avec... et Florian Philippot.
Et Florian Philippot, voilà, qui pourrait...
Pas plus d'une dizaine.
Bah, on verra, mais bon, en tout cas, c'est possible.
Ouais, c'est
mathématiquement, possible.
Ils vont bien gueuler au fond.
Arithmétiquement, c'est possible. Avec 11% des voix, le mouvement de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui-même qualifié pour le deuxième tour à Marseille, peut espérer au moins 10 députés, au mieux 23, parti communiste inclus. La division des forces de gauche se paie très cher, a regretté le chef de file du PCF, Pierre Laurent. De son côté, du côté du PS, sont faits les comptes, et en fait, c'est vite fait, hein. Le Parti Socialiste obtient un peu plus de 7%, 9 si on tient compte des radicaux et des divers gauches, de quoi lui assurer entre 20 et 30 élu à peine contre près de 300 en 2012. Alors si certains socialistes macro-compatibles ont réussi à sauver leur tête, Manuel Valls à Évry par exemple, mais aussi Marisol Touraine en Indre-et-Loire et Stéphane Le Foll dans la Sarthe, ça ne passe pas en revanche pour Benoît Hamon, éliminé dès le premier tour à Trappes hier donc, et surtout Jean-Christophe Cambadélis sorti dès le premier tour dans le 19e arrondissement de Paris. Toujours à Paris, Cécile Duflot a elle aussi mordu la poussière, elle est éliminée dès le premier tour dans le 20e arrondissement malgré le soutien du PS, élimination également, alors là, c'est un peu plus surprenant, de Myriam El Khomri dans le 18e. Je dis que c'est plus surprenant parce qu'elle était soutenue par La République En Marche. Elle a été distancée de 10 points par un proche d'Alain Juppé. Les ministres du gouvernement Macron sont tous en ballotage favorable. Et pour en finir sur les législatives, ce serait trop long d'entrer dans le détail évidemment, 4 députés seulement ont été élus au premier tour hier contre 36 en 2012. Effet de la faible participation. Une seule triangulaire s'annonce pour dimanche prochain dans la première circonscription de l'Aube contre 34 il y a 5 ans.
Il était bien votre effet de la faible, c'était joli. Comment tu t'appelles, jeune stagiaire?
Jeanne.
Jeanne, c'est un stage de quoi?
Seconde.
Un stage de seconde, donc c'est pas long, on n'est pas embauché tout de suite après. Qu'est-ce que tu penses de la voix de notre camarade Thierry Paré?
J'en sais rien.
Mais si, tu la trouves, tu me disais, il y a vraiment quelque chose qui me donne envie de me mettre en marche, quoi, tu me disais. Va t'asseoir, Jeanne, on va cesser de te torturer. Il a fini, pareil, vous envoyez non, des jeunes
oui,
souvent.
Et le tennis, c'est pas grave. C'est, oui, un petit mot de tennis.
Mais le tennis, on l'envoie tout de suite, il n'y en a que pour Jacques souvent.
Mais le tennis, il le dit très bien. Moi, j'ai adoré le tennis. C'était un match plié en 2 heures. Vavrinka a baissé la raquette, il voulait être sur la photo. Il a cassé sa raquette à un moment donné.
Oui.
Vous avez vu, c'était magnifique. Il a demandé à la jeune fille, allez, vire cette raquette, je ne veux plus la voir. Avec un geste assez violent. Il voulait plus l'avoir, il était dépité.
Pas en marche.
Pas du tout en marche, l'Afrika.
Et Nadal est deuxième au classement mondial aujourd'hui.
Ah. Bah alors, si vous vouliez parler de tennis, vous aviez que ça à dire.
Non, j'avais plein de trucs à dire.
Maggie
Nicole Kidman était dans les tribunes, elle était venue chercher son prix cannois, c'est très important. Quelques plans sur des acteurs qu'on a vus. Tout
moi, ma génération, c'était Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo.
Oui, mais ça a changé.
Il était là, Belmondo, il fait signe génial.
Mais il faisait 35. On n'a pas beaucoup de plans sur lui quand même. Sur le roi Juan Carlos, on en reparle.
Oui, alors donc d'accord, mais le tennis là-dedans.
Le tennis là-dedans, Nadal, il était magnifique. Non, mais vrai, il a fait des coups droits, il était beaucoup au filet. Il a beaucoup pleuré.
Un coup en particulier de dingue.
De dingue. Ouais.
Un coup de. Mais vraiment, sa take-er de.
Ça aurait pu être une balle de match incroyable.
Un coup où Wawrinka, sa tête, elle a changé.
Il a applaudi.
C'est difficile à dire parce qu'il a, il était. Enfin, Wawrinka tape dans la balle. Il met vraiment Nadal en difficulté.
Ouais.
Nadal, tu dis, va pas récupérer la balle. Il la récupère et il la met dans l'angle à l'opposé. Et l'autre, il était écœuré.
Il a applaudi d'ailleurs, Wawrinka, avec sa balle.
Pendant le truc, il a applaudi.
Au lieu de jouer, il a applaudi. Ouais. Voilà, c'était magnifique.
Dégare que votre petit Juan Carlos, lui, joue.
Lui, il était bien rougeois, je voulais dire, on n'a pas assez parlé.
Bon, merci beaucoup, messieurs.
La météo, alors, du coup, puisqu'on...
Ah, la météo aussi. Après, oui. Jacques Souvent, peut-être, si on a lancé Jacques Souvent.
Maintenant. Alors, Jacques Souvent.
Bonjour, monsieur. Je distribue des... Bonjour. Ah, voilà. Bonjour. On est à la sortie de métro avec Jessica et on distribue des prospectus, mais... Bonjour. Bonjour. Ah, c'est sympa de le prendre. Allez, vous dites un truc spécial?
Bonjour, un cadeau pas caraballe chez le Cibé.
Ah, voilà. C'est un cadeau. Vous avez un cadeau, monsieur, avec ça?
Bonjour, un cadeau Paco Rabanne chez le Cibé.
Ah, ça va très vite.
Paco Rabanne.
Un cadeau Paco Rabanne.
One million, à mon avis. C'est.
Bonjour madame, un cadeau Paco Rabanne.
Non, articulé.
Un cadeau. Ah, ça y est, on a un petit moment de répit.
C'est des instituts de beauté, ça, Nocibé, ou c'est des parfumeries?
Mais oui.
C'est une enseigne de parfumeurs.
Et donc, il y a Paco Rabanne qui est là-bas et qui fait des cadeaux?
Oui.
Bonjour.
Avec Cliff, hein.
Bonjour, merci, mademoiselle.
Bonjour.
Eh bien, laissez un peu Jacques Souvent travailler puis discuter avec nous.
Ah non, je peux pas.
Vous pouvez pas?
Non.
Et les gens, ils sont aimables, ils les prennent, les prospectus d'un Cibé?
Des fois, oui.
Et quand même, qu'est-ce que ça leur coûte? Qu'est-ce que ça leur arrache la gueule de vous le prendre? Ça m'énerve, les gens qui ne prennent pas les tracts. Bon, ils ont peur de quoi? Que ça les salisse. Donc, c'est plutôt, c'est agréable, c'est crevant? Comment ça se passe?
C'est fatigant, oui.
Bon, c'est payé correctement ?
Un peu, c'est pour dépanner, voilà.
Vous remplacez une copine ?
Non, c'est juste comme ça, en fait, pour occuper le temps un peu.
Bon, et alors vous faites ça combien d'heures par jour ?
2 heures.
Et là, vous en êtes... Ah bon, vous faites ça que 2 heures par jour ?
Oui.
Et là, vous en êtes où ? Vous faites des études ? Vous avez l'air toute jeune ?
Ah oui, j'ai 19 ans.
19 ans, alors ça va être quoi l'année prochaine pour vous ?
Je vais faire un BTS en communication.
Bon, et alors il faut un peu de sous de côté, quoi, pour le logement, pour la distraction, pourquoi ?
Non, juste comme ça, de l'argent de poche.
Un peu d'argent de poche qui va être dépensé comment ? Parce que la poche, elle est percée, cette poche.
Je sais pas trop, je sais pas encore.
Bon, petit à petit, quoi, chaque jour suffit. Donc là, on va un peu nocibler à la sortie du...
Il faut rajouter le « en marche » sur le propre...
Ah oui,
ça marche. En marche, nocibé.
Oui, oui, rajoutez le mot « en marche », vous allez voir tout.
Ah, ça y est, on a une nouvelle salve qui arrive, là.
Vous arrivez à tout vendre.
Allez, alors parce que Jessica, elle a quand même un... Ce qu'elle a, c'est un... Elle me rend le casque. Voilà, je récupère le casque.
Oui, parce qu'il faut... Si elle en a que deux heures de tracteur...
Le fil est accroché à la boucle d'oreille. Ah non, voilà, c'est bon.
Et alors, parce que... C'est pour ça que vous n'en mettez pas, vous.
Oui, Jessica, elle a un petit panier, vous savez, comme il y avait dans les cinémas avant, où ils arrivaient avec les micros et tout ça, là.
Une panière.
Un petit panier en osier, autour du cou. C'est pas trop lourd, la panière ? Non, c'est bon, c'est pas lourd. D'accord, il y a une nouvelle salle. Bonjour, madame. Regardez, les petits prospectus, ils sont cartonnés, on peut faire du vent avec, on va faire chaud tout à l'heure cet après-midi.
Non, essayez de les vendre plutôt que de les offrir, parfois ça marche mieux.
Vous pouvez faire du vent, regardez. Ça fait du vent. Monsieur, 5 euros le carton, là. 5 euros.
Bah alors à 2, peut-être qu'il le prend. Oui, partez très haut.
Non, mais parce que moi, je vais aller très haut tout de suite, là. Ça va pas du tout. 50 centimes. S'il vous plaît, faut que je mange un peu.
Vous allez lui foutre la paix, Jessica.
Non, Jessica, la communication, comme ça ?
Oui, ça va.
J'en ai filé 5.
Oui, au moins. Même plus, peut-être.
Il reste combien de cartons, là ?
Là, il me reste 200.
Allez, on les accélère. Vous me fourguez ça à 2 pendant les minutes, nous, pendant qu'on fait la météo Tito.
Bon voilà. Bah,
Jessica, voilà. Ça a été un plus d'avoir Jack souvent avec vous ce matin ou pas ?
Non, Jessica, elle a lâché le casque.
Elle a lâché le casque, elle lâche tout, elle en a marre.
Non, pardon, monsieur. Excusez-moi.
Il va faire 600 degrés aujourd'hui.
Oui, alors, un petit prospectus ?
Oui.
Vous en voulez combien ?
Un seul.
Vous ne pouvez pas en prendre 10 ou 15 ?
Pourquoi faire ?
Bah, parce que c'est gratuit.
Oui, bah, je vais donner en marchant, oui.
Ah,
en marche.
C'est bon. Est-ce que vous avez un petit peu de monnaie aussi ?
Ah non, là j'ai pas.
Un euro ?
J'ai même pas là. Je suis...
Arrêtez.
Non, mais j'ai pas un rond.
Vous avez des polos et
tout. Enfin, foutez-lui la paix.
Vous avez des chaussures ?
Oui, je vais lui donner mes chaussures.
Allez, merci. On vous laisse en pleine action commerciale.
Il a une petite quinzaine, c'est bien, c'est sympa.
Tito, les, en ventre nulle part.
Bonjour à tous, c'est la Saint-Guy. Aujourd'hui, il y a du soleil partout. Il se cache derrière quelques nuages. Les températures seront à Angers de 11 à 24. À Beauvais, entre 7 et 21. À Bordeaux, entre 18 et 28. À Corté, entre 17 et 32. À Limoges, entre 16 et 27. À Marseille, entre 19 et 28. À Nantes, entre 12 et 24. À Poitiers, entre 13 et 26. Saint-Étienne, 14 et 28. Donaldville, entre 17 et 24.
C'est où Donaldville ?
C'est dans le journal de Mickey.
Merci beaucoup.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Quelle belle idée a eu Éric Baraté de relater la vie, le destin de ces gens qui s'expriment trop peu, qu'on appelle les animaux. Bonjour Éric Baraté.
Bonjour.
Ça, c'est au seuil, ça s'appelle Biographie animale. Alors, moi, je connaissais les ouvrages de Martin Monestier sur les animaux pendant la guerre. J'avais lu aussi les mémoires de Cheetah, qui s'est exprimé, la compagne de Tarzan. C'était le point de vue des années Tarzan vu par Cheetah. Mais là, on a enfin la vie d'autres animaux célèbres et dont on ne connaissait pas l'intimité grâce à vous.
Oui, alors, l'idée, c'était de s'intéresser à quelques individus pour faire l'histoire des individus, puisque ça devient maintenant un horizon très important. On pensait surtout les animaux en termes d'espèces jusqu'à présent, et on s'aperçoit maintenant que le niveau individuel est extrêmement important. Et donc l'idée, c'était de prendre quelques individus célèbres parce que ils ont fait écrire, ils ont laissé, ils ont fait témoigner, et essayer de voir ce qui se passe du côté de ces individus, c'est-à-dire comment ils ont vécu véritablement leur histoire. Pas simplement faire une histoire du côté des humains, ce qu'on a souvent fait, mais là vraiment faire une biographie ou des biographies du côté des animaux, qu'est-ce qu'ils ont senti, comment ils se sont comportés, comment ils ont réagi, etc. etc.
Alors on suit quelques animaux fameux, hein, comme la fameuse girafe qui avait été offerte à Charles X, le taureau qui avait tué le torero Manolete, beaucoup d'autres animaux. Est-ce qu'on peut parler de destin sur la vie d'un animal ?
Ah oui, bien sûr, parce qu'on se rend compte que ces animaux-là ont une forte part individuelle. La girafe, par exemple, dont vous avez parlé, cette girafe donc, qui arrive à Paris en 1827, qui a traversé toute la France à pied depuis Marseille, cette girafe survit, ce qui n'est pas le cas de la plupart des girafes que l'on envoie à la même époque en Europe, qui meurent très vite de dépression parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter. Eh bien, celle-ci s'adapte parce qu'elle a un fort tempérament individuel. Et donc, on peut véritablement parler de destin parce que, évidemment, leur vie est en grande partie imposée par les hommes, mais à l'intérieur de ce cadre, ces animaux ont des capacités de réaction, des capacités d'action, et c'est ce qui donne ensuite un véritable destin individuel de chacun.
Alors il y a des animaux qu'on retrouve dans la peinture, donc qu'on peut quasiment qualifier de modèles pour peintres, pour sculpteurs, comme sujet de cinéma, de théâtre. Y a-t-il des animaux qui ont été des égéries d'artistes dont on peut dire aujourd'hui, tiens, il a vraiment influencé tel écrivain, tel penseur
Alors, il y a beaucoup d'animaux d'écrivains. Hein. J'évoque justement trois chiens d'écrivains dans ce livre. Hein. Par exemple, Pritchard, le chien d'Alexandre Dumas, qui a été pour lui un chien très présent. Il n'a pas eu que celui-là. C'est un chien qui, au départ, était un chien de chasse et qui est devenu ensuite un chien un peu vagabond à la journée. Il faisait un peu ce qu'il voulait. C'était un chien bohème à la manière d'Alexandre Dumas, et puis qui est devenu aussi compagnon. Il avait trois fonctions, compagnon, chien de chasse et vagabond. Et il a pris une part très importante dans la vie d'Alexandre Dumas, puisque Dumas ensuite a écrit un livre qui paraît en 1867, s'appelle « L'histoire de mes bêtes », dans lequel il parle beaucoup de Pritchard, pas simplement de lui, mais beaucoup de Pritchard.
Vous avez surtout voulu, Éric Baraté, nous dresser des portraits de destins étonnants, ou rendre hommage un peu à ces oubliés de l'histoire, les animaux ?
Non, l'idée c'était d'essayer de montrer comment ces animaux ont vécu leur destin, justement, hein, de vraiment de leur côté. La girafe, par exemple, c'est une histoire qui a été beaucoup racontée par les historiens, mais du côté des humains, c'est-à-dire qu'il a été l'engouement déclenché par cette girafe, comment les gens se sont précipités pour la voir, la mode qu'elle a déclenchée en vêtements, en coiffure, en vaisselle, en danse, etc. Donc c'était vraiment le côté humain qui était travaillé. Et ce que j'ai voulu faire, c'est me demander ce qui se passait vraiment du côté de l'animal.
Comment on se met du côté de l'animal, d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on essaie de mettre du point de vue de l'animal ?
Eh bien, il faut trouver les bons documents. Et dans le cas de la girafe, par exemple, j'ai trouvé des documents de naturalistes qui ont accompagné cette girafe le long de son voyage et qui ont eu des yeux relativement ouverts et pas trop préconçus, et qui donnent dans leur texte des indices très intéressants que l'on peut croiser avec le savoir actuel sur les girafes. Et à ce moment-là, ça nous permet de s'apercevoir qu'à telle occasion, elle est en situation de stress ou à tel moment, elle s'habitue. Et donc, ça permet vraiment de passer de son côté et d'écrire des histoires, des biographies vraiment du côté des animaux et non pas simplement du côté des hommes. Et ça permet de voir beaucoup plus de choses dans le cas de la girafe.
La girafe, donc, pardon, je rappelle qu'elle avait été offerte au roi Charles X hein, par le pacha d'Égypte en 1826, qu'on appelait Zarafa. Oui.
Et on voit à ce moment-là, évidemment, les incompréhensions entre cette girafe et les hommes, ou alors les ajustements réciproques. Ça permet de mieux comprendre les hommes, et puis ça permet de comprendre aussi ces animaux-là qui sont des animaux qui ont un destin individuel. Et donc l'idée, c'était vraiment de raconter des destins individuels, mais vraiment de leur côté, et pas simplement vus par les hommes.
C'est ce qui est beau dans le livre, c'est qu'on a vraiment l'impression de suivre des personnages à part entière. Ça s'appelle Biographie animale au seuil. Éric Baraté, juste pour finir, dites-moi pour vous le plus beau destin, celui qui vous a le plus touché parmi les animaux que vous avez croisés.
Dans ce livre.
Du livre ou en général, ou dans la vie?
Ah, sans doute le singe consul que j'évoque et qui est dans le. Qui est un singe qui arrive aux eaux de Manchester à la fin du XIXe siècle, qu'on fait venir pour être un singe savant, et qui finalement va vouloir s'humaniser pour essayer de gagner de meilleures conditions, hein, plutôt que rester singe en cage. Eh bien, il accepte de s'humaniser pour pouvoir sortir, pour pouvoir se promener, pour aller au restaurant, pour aller à l'hôtel, pour fumer sa pipe bourrée de thé au club anglais. Et donc on voit que c'est pas simplement quelque chose qu'on lui impose, mais il participe aussi pour se créer une meilleure condition de vie.
Il est en couverture du livre avec son haute forme, 8 reflets et sa petite canne. Merci beaucoup Éric Baraté.
C'est moi qui vous remercie.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi, Édouard Baer.
La pub, d'accord. Enfin, la pub aura une vertu, c'est celle de nous aider à préparer le grand Malik Djoudi qui est là, avec son équipe de masseuses, du nutritionniste, tout le monde est là autour de ce grand artiste qui est en live dans le Café Nova. Est-ce qu'il y a des gens ce matin? Ouais. Il y a du lourd, bébé.
Il y a des gens.
Ça envoie, qui dit live dit Rudy, l'exégèse de Malik Djoudi par Rudy.
Malik Djoudi nous est apparu en plein mois de février dernier,
tout ce que vous dites.
Sans nous prévenir, sans rien nous dire, sans que nous prenions même le temps de nous habituer à cette voix androgyne, sans filet, terriblement émouvante, qui depuis nous berce continuellement. Malik Djoudi, à l'image de la pochette de son premier album, est arrivé, seul depuis sa comète. Dans un autre espace-temps, dans une autre galaxie, auparavant, il jouait dans des groupes, mettait en son le cinéma, puis à la suite d'un voyage sur ses terres, au Vietnam, l'appel de la langue française chantée lui est apparu comme une révélation. Alors, c'est la naissance de Malik Djoudi, ou plutôt la renaissance. Au commencement, il y a ce somptueux premier album intitulé Sobrement 1, un album sur lequel Malik se livre à nu par cette voix dont j'ai parlé précédemment, qui nous ramène aux plus grandes heures de la synthé pop des années 80, et par cette écriture pure, intimement personnelle, de l'autofiction sur nappe synthétique. Alors nous avons envie de suivre les yeux fermés Malik dans son voyage, nous avons envie de le croire sur parole car il nous inspire confiance, nous avons surtout eu envie de l'écouter ce matin en live à l'aube de l'été. Il est venu accompagné de son acolyte de toujours, Greg Cadu, nous interpréter 3 titres, dont le premier est celui qui tourne beaucoup sur l'antenne de Radio Nova et qui s'intitule Sous Garantie. Il sera le 21 juillet prochain au Midi Festival dans le somptueux cadre de la Villa de Noailles. Malik Djoudi, bienvenue, Sous Garantie, c'est à toi.
Merci. Malik Djoudi ici dans le Café Nova, merci Rudy, merci à tous, c'est fini, moi je vais prendre mon train pour Nyons, je serai avec vous en direct de là-bas demain, salut, merci.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.